Abba Père.
Amen.
Amen.
Sohn durch den Geist.
Père, en ton Fils par l'Esprit. Nous prenons cette merveilleuse entrée vers toi. Avec douceur et humilité, que nous soyons si prêts à accepter ta parole, à mélanger cette parole efficace avec notre foi, cette parole qui est, qu'elle soit aussi une épée tranchante à deux aigus, aiguë à deux tranchants, pardon. Nous soyons fortifiés pour aller de l'avant, pour que nous puissions accomplir ta merveilleuse volonté sur cette terre. Te prions pour tous les saints, te prions pour tous les croyants, pour tous les saints à Sion. Sois-nous encore miséricordieux, Seigneur. Donne-nous beaucoup de grâce, que nous puissions nous encourager mutuellement. Ensemble, nous puissions avancer ensemble, à nous préparer pour ton retour, Seigneur Jésus. Que notre Père puisse être satisfait. Amen. Bénis notre réunion ce soir. Fortifie-nous avec le Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce temps, pour tous les frères, pour les frères et sœurs et toutes les églises. Amen. Abba Père. Louez le Seigneur. En fait, les frères ont déjà tout dit, je pense, ce que Jacques a écrit. En fait, ce soir, je préférerais entendre ce que vous avez à dire, ce que le Seigneur vous a dit. Ce serait très bien, en fait.
Amen.
Nous remarquons tous. Nous avons vu à quel point l'épître de Jacques est pratique pour nous. Nous voulons le mettre en pratique. Il y a tant de choses que nous devons apprendre. Le Seigneur est si riche. Nous avons tant de manques. Si nous ne reconnaissons pas nos manques, nous ne les confessons pas, comment pouvons-nous aller de l'avant? Même Pierre a utilisé ce mot avec zèle. Dans beaucoup de domaines, nous avons du zèle. Nous sommes zélés. Que ce soit à la maison, les devoirs pour les étudiants, dans la vie de l'Église, au travail. Pourquoi pas, d'un point de vue spirituel, combien plus nous devons être zélés pour les choses divines, spirituelles. Si nous ne nous exerçons pas, si nous exerçons pas avec zèle, alors nous n'allons pas atteindre le but. Nous n'arriverons pas. Vous êtes si zélés pour faire des exercices physiques. Tu t'exerces chaque jour, physiquement. Pourquoi est-ce que nous ne nous exerçons pas de manière divine? Exerce-toi à la piété, nous dit la parole. Je vois les enfants, ils sont si zélés dans beaucoup de choses, dans le domaine du sport, à l'ordinateur en tout temps. Mais quand il s'agit de lire la Bible, tout à coup, ils deviennent paresseux. Ils n'ont pas envie de lire la Bible. Penses-tu que nous, qui sommes plus âgés, nous sommes mieux, meilleurs que les enfants. Ça signifie que nous n'avons pas les désirs les plus importants dans nos cœurs. Nous disons, Seigneur, Seigneur, nous voulons être des prémices, mais ensuite nous sommes paresseux d'un point de vue spirituel. Nous sommes si zélés pour tant de choses. Nous devons apprendre pour cela. C'est important de nous exercer dans les choses spirituelles ne sont pas différentes de le principe. Vous voulez même obtenir un 6 dans les épreuves. Vous voulez avoir un retour positif. Mais dans les choses spirituelles, nous sommes négligents. Nous oublions de prier. Nous n'avons pas le temps de lire la parole, de lire, prier et lire. Nous exerçons physique, mais est-ce que vous vous exercez à être humble devant le Seigneur? De nous vider de toute chose. C'est un exercice. Nous exerçons d'un point de vue physique nos muscles, faisons de la gymnastique, du fitness. Est-ce que vous avez exercé à fléchir les genoux devant le Seigneur? Le Seigneur nous dit que tous genoux fléchiront. Paul nous dit, c'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père. Nous devons apprendre à fléchir les genoux devant le Seigneur. Fléchir les genoux, s'humilier devant le Seigneur a une merveilleuse signification. Ça signifie que nous nous inclinons devant le Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous donnons la gloire au Seigneur. Nous humilions devant le grand Dieu vivant et vrai. Bien sûr, nous devons confesser, mais nous devons aussi nous incliner devant le Seigneur. Ce matin, as-tu fléchi les genoux devant le Seigneur? Chaque jour, je fléchis les genoux devant le Seigneur. Ce n'est pas une pratique, non. Mais je veux m'humilier devant le Père. Quand ils étaient sur la plage, avant que Paul quitte les Éphésiens, ils étaient tous à genoux et ils ont prié. Ce n'est pas une pratique, non. Chaque chose que nous faisons a une signification profonde. Le fait que nous humilions devant Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. C'est un exercice. De s'exercer avec zèle. Et même dans les petites choses, nous nous exerçons. C'est sain, c'est bon pour notre santé. Sinon, nous sommes tous orgueilleux, pensant que nous sommes meilleurs que les autres. La connaissance accrue ne fait pas de nous des personnes meilleures. C'est pourquoi l'épître de Jacques est importante pour nous tous. Elle nous expose tout à la fin. Pourquoi penses-tu que Jacques a parlé à nouveau au sujet des riches? Es-tu riche? J'aimerais vous poser une question. Je retourne la question. Est-ce que vous êtes très pauvre? Martine, es-tu un homme pauvre? Non. Ça signifie que tu es riche. Tu n'es pas milliardaire. Même pas millionnaire. Mais tu as tout ce dont tu as besoin en abondance. Dans les richesses, il ne s'agit pas uniquement d'argent. Il y a d'autres richesses qui entrent en ligne de compte. D'un point de vue spirituel, j'ai vu tant de personnes qui pensaient qu'elles étaient si riches en connaissances, riches en expérience. Ils s'en vantent. Ils veulent avoir du pouvoir. Il y a différents types de richesses. Même si nous n'avons rien, nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Chacun est riche en quelque chose. Mais ici, les richesses, nous voyons que c'est dangereux. Jacques n'est pas opposé aux riches. Non, dans la parole, nous voyons qu'il y a des gens riches très bien.
Abraham.
Pouvez-vous nommer quelqu'un? Abraham. Abraham était très riche. Mais les richesses ne l'ont pas touché. D'où savons-nous cela? Il avait tout ce qu'il voulait. Il est même arrivé à Canaan. Et là, il a bâti une tente. Nous, nous bâtirions un palace. Mais lui, il a bâti une tente et il habitait dans des tentes. Pourquoi? Hébreux 11 nous l'a expliqué. Parce qu'il a vu que ce n'est pas la chose qu'il voulait, qu'il cherchait. Mais il était à la recherche d'un édifice dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu lui-même. Il voulait accéder à cette ville, à la ville du Dieu vivant. Il voulait avoir la Jérusalem céleste. Nous, nous disons que nous voulons avoir la Jérusalem céleste, mais notre cœur est tellement attaché à des choses terrestres. Nous ne nous contentons pas d'une petite VV. Alors, nous voulons avoir une BMW, j'aimerais une Porsche. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ich meine nicht, bitte. kaufe ich ein Toyota oder.
Je suis pas en train de vous dire achetez-vous une Toyota. C'est pas ce que je veux dire. Tout est à disposition. Tu peux l'avoir si tu veux. Mais cela ne doit pas prendre ton cœur, ne doit pas te lier. En fin de compte, c'est une idole pour toi. Nous voulons avoir du confort, nous voulons avoir du luxe. C'est OK. Mais cela ne doit pas prendre ton cœur entièrement. C'est très dangereux, très dangereux. L'Écriture entière nous avertit à ce sujet. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur lui-même était un exemple. Il était Dieu. Tout lui appartient. Dans cet univers, tout lui appartient. Il a tout créé.
Jesus, Gott hat ihn zu Erbe über alles gemacht.
Il l'a fait héritier de toute chose. Jésus a été l'héritier de toute chose. Qu'est-ce qu'il a choisi? Philippiens 3. Dans Philippiens 2, nous voyons qu'il a tout mis de côté. Il s'est fait pauvre. 2 Corinthiens 8, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? C'était l'exemple, le modèle de notre Seigneur. J'espère que je vais apprendre de lui, que nous allons tous apprendre de ce modèle, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. N'est-ce pas merveilleux? Un tel exemple, c'est vraiment la miséricorde du Seigneur. La grâce. Nous savons pas à quel point il était riche, il n'était pas milliardaire, il était.
Kann man nicht messen,
on ne peut pas mesurer. L'univers entier lui appartient. Il était prêt à laisser tout cela, devenir pauvre, afin que nous soyons enrichis. Non pas riche de choses matérielles. Les choses matérielles, Dieu va nous les donner de toute façon. Afin que nous devenions riches pour Dieu, dit l'Écriture. Si nous sommes riches de choses matérielles, que nous sommes pauvres de choses de Dieu, de sa nature, de son être. C'est ce que nous voulons gagner. Est-ce que vous avez déjà pesé? Est-ce que vous avez déjà fait un bilan? À quel point est-ce que je le connais? Paul a dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Pour lui, tout ce qu'il avait déjà gagné n'était pas suffisant. Il aimerait continuer. Il aimerait gagner davantage de Dieu, être riche pour Dieu. Un merveilleux exemple pour nous. Il a tout laissé. Et il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis.
Tous
ceux qui aiment le Seigneur, Si nous lisons le Nouveau Testament, même Pierre,
Johannes, Jacobus,
Jean, Jacques, Philippe,
sie waren nicht reich, aber
ils n'étaient pas riches, mais leur richesse consistait à avoir quelques filets de poisson. C'était leur motif de vie, c'était leur moyen de subsistance. Ça suffisait pour eux. Ils étaient prêts à laisser tout cela.
Ich gebe zu, es ist einfach ein altes Boot da mit Netz und so weiter.
Bien sûr, je reconnais qu'il est plus facile de laisser une vieille barque avec un filet qu'un compte en banque avec un milliard de dollars. Mais toujours est-il qu'ils ont appris. Ce que Pierre n'a pas dit, Seigneur, qu'allons-nous obtenir? Nous avons quitté notre entreprise. Notre père, notre maison, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Qu'allons-nous recevoir? Attends, quand le Seigneur reviendra. C'est le principe. Abraham a dû tout laisser. Ne pense pas qu'en fin de compte, tu seras une pauvre souris. Abraham a tout laissé, mais le Seigneur a multiplié. Dieu n'est pas redevable à qui que ce soit. Nous devons apprendre tout ce que le Seigneur, nous avons reçu du Seigneur. Nous ne devons pas penser que c'est pour se réjouir d'une si belle vie ici sur cette terre, non. Mais afin que nous tous, nous soyons de bons administrateurs. Exerce-toi à être un bon administrateur, de tout utiliser, de l'utiliser pour ce dont le Seigneur t'appelle.
Es gehört nicht uns. Natürlich.
Cela ne nous appartient pas. Bien sûr, cela nous appartient, mais en même temps, cela ne nous appartient pas.
Nous
considérons comme des administrateurs de Dieu.
Sei nicht so wie die Leute der Welt. Am Ende mit viel Geld sind sie alle verdorben.
Ne sois pas comme les gens du monde qui, en fin de compte, sont si corrompus avec tant d'argent. Tous ces hommes d'État, tous ces dirigeants ici aux États-Unis se sont vendus pour beaucoup d'argent, en fait. Ils doivent vraiment être l'esclave de celui qui a donné tout cet argent. Sois prudent, car le Seigneur va te donner beaucoup. Tu dois apprendre à être sage et à l'utiliser comme le Seigneur l'a dit. Ne pas l'utiliser comme ce mammon de la justice.
Dieses Mammon ist an sich selbst nicht gerecht.
Ce mammon n'est pas juste en lui-même.
Erfunden.
Penses-tu que c'est le Seigneur qui a inventé mammon?
Clemens,
aide-moi. Qui a inventé mammon? Qui a inventé l'argent? Dieu, l'homme. Et qui a inspiré l'homme?
Le Teufel.
C'est le diable. Bien sûr. C'est pourquoi il est appelé Mammon de la justice.
Et
le Seigneur a dit dans tous les évangiles, l'évangile de Matthieu, mais aussi l'évangile de Luc. Luc en parle beaucoup. Personne ne peut servir deux maîtres. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Qui sont ces deux maîtres? Bien sûr, l'un des deux est le Seigneur. Je ne connais qu'un seul Seigneur. Mais l'autre, c'est Mammon. Peut-être nous n'avons pas pensé à cela dans nos cœurs.
Man sagt, nichts berührt die Menschen so sehr wie wenn du ihre Tasche berührst.
On dit, il y a un dicton qui dit qu'il n'y a rien qui touche davantage un homme quand quelqu'un touche à sa poche, spécialement dans, quand quelqu'un veut tendre sa main vers ce qui est dans ta poche.
Dann hört der Spaß auf. Ja. Wie sagt man auf Deutsch nochmal, Martin?
Dann hört der Spaß auf.
Alors le plaisir s'arrête. La plaisanterie s'arrête.
So sagen auch die Deutschen, gell?
Les Allemands ont aussi cette expression. Pourquoi? Pour quelle raison?
Bitte sage uns, Martin.
Da geht es an die Existenz.
Il en va de l'existence. La sécurité, l'identité. Nous pensons que ce que nous avons, c'est notre identité. Tu es ce que tu as, c'est vrai. Merci, Martin. En d'autres mots, comme le Seigneur l'a dit, ce Mammon de la justice. Et qui se cache derrière ce Mammon? C'est l'injuste lui-même en personne, Satan lui-même. Si nous servons Mammon, alors nous servons celui qui se cache derrière Mammon. Le Seigneur dit cela de manière si claire. Paul nous dit que l'amour de l'argent est une racine. Il n'y a qu'une seule racine. Est une est la racine de la méchanceté. Il a vu quelque chose. Et si nous voyons, si nous identifions cela, si nous avons identifié cela, alors tu es une personne sage. Tu sais comment tu dois gérer les histoires d'argent. Être riche en soi-même n'est pas une méchanceté, une chose mauvaise. Dans la Bible, par exemple, comme Zachée. Vous connaissez Zachée? Il était petit, pas très grand. Il ne pouvait pas voir le Seigneur. Il a entendu parler du Seigneur. Il est monté sur un arbre. Il voulait voir Jésus. Parce qu'il avait un cœur pour le Seigneur. Le Seigneur l'avait vu depuis longtemps. Il a dit « Zachée ». Il était certainement choqué parce qu'il Il est étonné certainement que le Seigneur connaisse son nom. Viens, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Peut-être manger le repas de midi, repas du soir, je n'en suis pas sûr. C'était le résultat final. C'est merveilleux. Je vois Clemens là en face de moi. Il a entièrement changé. Et la première chose qu'il a reconnue, qu'il a dit au Seigneur, c'était quoi?
Lucas 19 sagen, ja? Bitte lies es uns vor. Lucas 19, ja.
Luc 19. Il était un homme riche.
Le
Seigneur ne hait pas les riches. Ne pense pas que si tu es riche, que le Seigneur te hait. Mais il aimerait œuvrer en lui.
Lucas 19, vers 8.
Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » C'est l'expression du salut. Ici, c'est le salut. C'est un merveilleux salut. Le Seigneur doit sauver nos cœurs de l'avarice et le fait d'aimer posséder les objets. C'est une idole. Il y a un autre homme riche, Joseph d'Arimathée. Quand Jésus a été crucifié, lui qui était un homme riche, il est venu.
Un riche grab muss ein schöner grab sein gewesen.
Il avait préparé cette tombe pour lui-même. Ça devait être une tombe magnifique. Il l'a donnée au Seigneur. Et ensuite, il y a Nicodème, qui était certainement un homme riche parce qu'il a apporté tellement de myrrhe pour l'enterrement du Seigneur. C'est merveilleux. À la mort du Seigneur, il y a deux hommes riches pour aider pour son enterrement. Monsieur, Madame, tout le monde ne peut pas faire cela. Le Seigneur a certainement besoin aussi de personnes riches. Nous devons aimer le Seigneur, tout ce qui nous appartient. Cela nous a été donné par le Seigneur. C'est pas le bon mot, mais cela nous a été confié. Ô Seigneur. Tu peux lire Luc 16. Tu es dans l'évangile de Luc.
Lucas Evangelium, Kapitel 16.
Chapitre 16.
Lukas 16, Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde.
Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Appréciez-vous cette parole du Seigneur? Non?
Gehört euch das Geld?
Est-ce que l'argent vous appartient? L'argent nous a été confié. Le Seigneur vient bientôt. Quand il viendra, si tu as quelques millions sur ton compte en banque et il n'est pas utilisé, alors le Seigneur va te dire, qu'as-tu fait avec cet argent? Est-ce que tu penses que le Seigneur ne va pas te demander? Pour le Seigneur, cet argent, c'est quelque chose d'infime. Il n'a pas besoin d'argent. J'ai vu dans beaucoup d'églises, même dans les églises locales, en fin de compte, l'argent est si important pour eux. Ils ont amassé tant d'argent. Je ne veux pas dire que des frères et sœurs individuels ne doivent pas être riches. Ils peuvent être riches. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais l'Église, la maison du Dieu vivant, n'est pas une banque centrale, n'est pas une Deutsche Bank. À la fin, il n'en allait que d'argent. Oh Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi entre nous. Le corps de Christ ne doit pas amasser des richesses sur cette terre. Tu sais, quand Jésus a été tenté par Satan, la plus grande tentation a certainement dû être, regarde toutes ces richesses dans ce monde, je te les donne. Mais tu dois te prosterner devant moi et m'adorer. Le Seigneur n'a pas accepté cela, bien sûr que non. D'un côté, ça lui appartient. Et d'un autre côté, en tant qu'homme, le Seigneur Dieu lui avait dit qu'il était héritier de toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de tout ça? Et le plan de Dieu pour nous sauver est à l'opposé de ce que Satan a proposé. Le Seigneur a tout laissé et maintenant ce serpent tordu, ce serpent stupide veut me donner toutes ces choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons la même attitude avec le Seigneur, alors c'est un salut pour nous. Combien de fois nous demandons au Seigneur, qu'est-ce que je veux faire avec ces richesses pour ton royaume, ces richesses que tu m'as confiées? Comment est-ce que je vais faire ça? Donne-moi la sagesse. J'aimerais être un esclave intelligent, sage. J'aimerais être un serviteur fidèle, pas être comme le serviteur infidèle. Mais ce en quoi le Seigneur l'a loué, l'a loué pour sa sagesse. Il savait comment gérer ses richesses. Comment gérer l'argent de son patron. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Ce sera quoi mon avenir? Si mon chef me jette dehors, je n'ai rien. Alors quand le Seigneur revient, qu'est-ce que tu as? Alors nous devons être plus sages. Nous devons dire au Seigneur, « Seigneur, je veux gérer avec sagesse ce que tu m'as confié. Donne-moi la sagesse. Je ne veux pas juste partir parce que l'argent rend les pasteurs riches. Mais le Seigneur va nous donner la sagesse d'en haut. Je ne veux pas juste enrichir les pasteurs, pardon. Je veux gagner des amis. Quel type d'amis? Et ces amis vont nous aider à entrer dans le royaume. Avoir de l'argent, avoir maman, ne signifie pas maintenant je vais tout jeter. Non. Mais cela signifie l'utiliser en toute sagesse, selon la sagesse d'en haut, afin que tu aies une tente, non pas un palace, mais une tente qui te serve à attendre le Seigneur. Mais vous savez combien même de croyants font cela? Jacques a vu beaucoup de choses parmi les Juifs. Les Juifs sont, de manière générale, des personnes très riches. Mais ces richesses ne tendent pas vers le bien, mais plutôt vers le mal. C'est terrible. Regarde aujourd'hui ce monde en Dieu entier. L'élite sont les milliardaires. Ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cet argent? Ils veulent régner sur les hommes, ils veulent tout casser. Ils veulent même diminuer le nombre des hommes. Ils font des choses étranges pour pouvoir mieux régner. Ils servent Satan. L'avarice. Et Jacques nous avertit à ce sujet. Ce n'est pas écrit comme ça au hasard. Ne dit-il pas, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde? Jacques pose la même question. Combien de riches Dieu a-t-il élu? Combien d'entre vous sont si riches? C'est la question qu'il a posée. Non. Combien de personnes sont pauvres? Il n'a pas choisi ceux qui ont des doctorats. Mais combien est-ce qu'il en a choisi qui ne sont pas si sages en eux-mêmes, pas si riches? Ce sont ceux que Dieu a choisis pour être riches dans la foi. Cet avertissement aux riches est très important pour nous tous. Ne pense pas que si tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas riche, mais tu dois être riche pour Dieu.
Ich sehe Peter da. Peter, bist du arm oder bist du reich? Ja. Selig sind die Armen.
Heureux ceux qui sont pauvres, le Seigneur dit. Matthieu a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Apprenons tous. Ne pas tellement retenir dans nos cœurs, mais nous devons apprendre ce qui nous a été confié. Le Seigneur nous a tant donné. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ce que tu m'as donné? Utilise-le pour le royaume de Dieu. Utilise-le pour la volonté du Père. Tu as beaucoup d'opportunités de faire beaucoup de choses de bien. Et si nous ne voyons pas cela, ce n'est pas bien. Souviens-toi. Dans Acte 2, n'avez-vous pas lu Acte 2? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Acte 2, est-ce que vous pouvez lire cela? Peut-être que nous ne faisons pas tellement attention à ces versets, mais après avoir lu l'épître de Jacques, nous devons modifier un petit peu notre manière de penser. Clemens.
Ab Vers 44 meinst du wahrscheinlich, oder?
Richtig, ja.
Du Verset 44, je pense, oui. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Louez le Seigneur. Ensuite, le chapitre 4, verset 35.
Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern ihm gehöre.
Les apôtres, c'est 34, car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Qui leur avait enseigné cela? Pierre, Jacques, est-ce que c'est un enseignement? Est-ce qu'ils pratiquaient cela? Est-ce que quelqu'un les a obligés à faire cela? Non, c'était l'effet, l'opération du Saint-Esprit.
Cela
devait être ainsi. Là, à Jérusalem, il y avait beaucoup de personnes qui étaient pauvres. Il n'y avait pas que des riches, il y avait des pauvres. Mais l'effet du Saint-Esprit était, c'est une libération, en fait. Je ne peux pas l'expliquer. L'opération du Saint-Esprit faisait que ce n'était plus si important pour eux. Quand le Seigneur agit dans nos cœurs, plus rien n'est important. Même les choses les plus importantes que les hommes aimeraient retenir, ce sont leurs richesses, leurs possessions. Mais le Seigneur les a libérés. Cela ne signifie pas que nous devons faire aussi cela dans l'Église. Non, ça ne va pas. Et les apôtres ont certainement rendu un certain nombre de choses. Ils sont pas, les apôtres n'étaient pas des ministres des finances. Alors, ils doivent encore engager un comptable. Ils doivent dire à Matthieu,
verantwortlich.
Ja, certainement beaucoup d'expérience là-dedans. Tu deviens responsable des finances. Non.
Diese Praxis haben sie es nicht weitergemacht, weil es nicht eine
Praxis. Ils n'ont pas continué à pratiquer cela parce que ce n'est pas une pratique. C'est une opération du Saint-Esprit. S'il n'y a personne qui dépense de l'argent, il y aura un gros problème dans l'Église. Ce que le Seigneur t'a mis à cœur, chacun est responsable de l'argent que le Seigneur lui a confié. Mais j'aimerais montrer simplement que si le Seigneur nous remplit, nous touche le cœur, rien ne doit retenir. Le Seigneur doit nous sauver. Si nous voyons tous ces points maintenant, là, dans Jacques, alors nous pouvons comprendre pourquoi Jacques a mentionné et accentué les riches dans son épître. C'est un avertissement aux riches du jugement à venir. Seigneur Jésus, au sujet du jugement qui viendra sur eux, ça signifie que si nous n'avons pas appris à gérer les richesses selon le Saint-Esprit, si quelqu'un a des richesses, il a cette responsabilité. Plus tu es riche, plus ta responsabilité est grande. Pense à cela. Richesses sont corrompues,
il dit.
Et les pauvres ne doivent apprendre à ne pas être jaloux. Et pas dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as rendu si pauvre? Alors c'est exactement le même problème. Ne pense pas que ce sont les riches qui sont avares. Pas forcément. Que les pauvres ne sont pas avares. C'est pour cette raison qu'il y a tant de voleurs.
So, ob wir arm sind,
oder nous soyons pauvres ou riches, nous devons tous apprendre. C'est pourquoi au chapitre 1, Jacques a dit: ceux qui sont pauvres doivent se glorifier. Et que les riches se glorifient de leur humilité. Ne pense pas que si tu es riche, tu es meilleur. Non, tu dois te considérer comme étant inférieur à une personne pauvre. C'est l'inverse. C'est notre salut. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Comme le Seigneur l'a dit, que le plus grand soit le serviteur de tous. Je pense que je suis si grand, je peux donner des bons messages, et alors, c'est pourquoi Jacques a dit que vous ne soyez pas tous des enseignants et pas un grand nombre d'enseignants. Le principe est là. Le principe est bien là. les richesses sont corrompues. Peu importe les richesses, que ce soit des richesses en connaissance, même ceux qui ont beaucoup de connaissances de la Bible, en fin de compte, tout est corrompu à la fin. Alors, ils reçoivent davantage de coups, en fin de compte. Le mammon de l'injustice. Leur argent, leur or terrestre va rouiller. Nous voulons recevoir, acheter le véritable or du Seigneur. À l'église, à Laodicée, il dit que la rouille sera un témoignage contre eux.
Le
point 3 du résumé, récolter des richesses, des trésors dans les derniers jours. Si nous ne l'utilisons pas de manière adéquate, notre argent. Seigneur Jésus, donne-nous la sagesse. Ça veut dire quoi, amassamasser des trésors? Ça veut dire que tu as beaucoup et tu mets ces trésors à un endroit où les voleurs n'ont pas la possibilité de venir les chercher. Ça signifie s'amasser. Tu amasses des trésors. Plus tu aimerais en avoir. Ainsi sont les hommes. Ainsi sommes-nous tous. Plus tu en as, plus tu en veux. Souviens-toi ce que Jacques a dit. Amasser des trésors est synonyme de s'amasser un jugement. Ne pense pas que parce que tu as amassé tellement de richesses, cela signifie que tu vas aussi récolter encore davantage de jugements pour toi.
Oh
Seigneur Jésus, à la fin de ce temps, tout sera anéanti. Le Seigneur est mon témoin. Journellement, souvent, je prie, je lui demande, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire avec ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je n'aimerais pas qu'à la fin, par l'inflation et par le feu, que tout disparaisse. Alors le Seigneur va dire, quand il avait encore de la valeur, qu'en as-tu fait? À la fin, Proverbe nous dit, que ton argent aura des ailes. Est-ce que tu as déjà vu cela? Est-ce que tu as déjà vu qu'un dollar ou un euro s'envolait avec des ailes? Il s'envole de toi.
Et
tant que nous en avons aujourd'hui, recherchons la sagesse d'en haut pour voir, Seigneur, comment est-ce que je peux l'investir pour ton royaume? Comment est-ce que je peux le solliciter pour ton économie céleste? Qu'est-ce que je peux en faire? Et ainsi, point C. Ils sont tous devenus gras. Si un bétail est bien nourri, alors il est temps de le tuer. Je ne suis pas un éleveur, mais c'est comme ça. Le Seigneur a dit aux pharisiens, votre cœur est devenu gras. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il est temps de le tuer, de l'abattre. Ils ont tellement récolté dans leur cœur, ils sont devenus gras. Ils ont en fin de compte même plus eu de la place pour Dieu. Il ne doit pas en être ainsi parmi nous. Et Jacques ne voulait pas dire que nous devons tous être pauvres. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce ne sera pas une gloire pour Dieu si nous dormons tous dans la rue. Ce n'est pas une... Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais nous ne devons pas être avares et vouloir davantage et davantage, nous amasser des trésors. Apprends, c'est si pratique. Le temps est très court maintenant. Nous avons entendu certainement des frères ce matin l'encouragement à ceux qui passent par des épreuves, d'être patients dans ces épreuves. Avoir de l'argent est une épreuve aussi pour toi. Ne pas avoir d'argent est aussi une épreuve. Mais j'aimerais vous demander, quelle épreuve entre ces deux est la plus grande? Ne rien avoir ou avoir beaucoup?
Patrick,
qu'est-ce que tu en penses?
I think that to have a lot is a big épreuve.
Test,
yeah.
Avoir beaucoup, c'est une grande épreuve. C'est pourquoi le Seigneur nous a montré. Le Seigneur regarde. Qui est-ce qui donne quoi? Et cette pauvre veuve qui n'avait qu'une petite pièce, le pharisien qui avait tant. Regarde, j'ai tellement donné.
Le
Seigneur lui-même a demandé, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? Qui a donné plus? Bien sûr, je voudrais dire, regarde celui-ci. Il a donné 10 000 dollars. Et celui-ci a donné seulement 50 centimes. Qui a donné davantage? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Cette pauvre veuve a donné tout ce qu'elle possédait. Il n'en va pas de la quantité, il en va de ton cœur. Il en va du cœur. Les richesses sont une grande tentation qui vient de Satan. L'avoir, en avoir est aussi une épreuve. Ça peut être une bénédiction pour toi. Cela dépend. Quelle est ta relation avec le mammon de l'injustice? Amen, frère. Vous n'êtes pas d'accord avec cela? Amen. Ne dites pas, je ne veux plus lire Jacques, il est contre moi parce que je suis riche. Jacques n'a pas voulu dire cela. le Seigneur non plus.
Quand
ce jeune homme riche s'en est allé, qui est celui qui était si riche, le Seigneur a dit aux disciples combien il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors les disciples lui ont demandé, « Mais Seigneur, qui peut être sauvé si on est assis ?» D'une certaine manière, nous sommes tous riches. Pierre le dit, et tous ces pauvres disciples du Seigneur, qui peut être sauvé? Même eux ont des problèmes alors, le Seigneur a dit. Est-ce que le Seigneur a répondu? Personne. Il a dit, ce n'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Mais les riches peuvent aussi entrer. Ne pense pas que tu entres dans le royaume uniquement parce que tu es pauvre. Je
ne
suis pas sûr. Être pauvre n'est pas une garantie pour entrer dans le royaume. Ce n'est pas un ticket d'entrée pour le royaume. Non. Nous devons tous gagner le Seigneur. Alors, nous devons attendre le Seigneur comme un laboureur attend le précieux fruit de la terre. Un laboureur n'est certainement pas une personne riche. Si je suis riche, je ne veux pas être un laboureur. Je laisse venir des personnes, je les rémunère, je les laisse travailler dans le champ. C'est un travail dur. Paul a dit que nous sommes le champ de Dieu. Et les apôtres sont des laboureurs. Ils plantent. Apollos a arrosé. Apollos était aussi un laboureur. Et notre cœur est le terrain. Mais si le cœur est rempli de richesses, qu'est-ce qui va pousser sur ce champ? Je n'ai encore jamais vu d'arbres qui portent de l'argent ou de l'or. Je n'ai encore jamais vu un arbre qui porte de l'argent. C'est pourquoi dans les séminaires théologiques, les cours important, c'est comment est-ce que je peux faire de l'argent. Certainement, le Seigneur n'a pas donné un tel enseignement, pas à ses disciples. Nous sommes des laboureurs, et un laboureur a besoin de la bénédiction qui vient du ciel. Il a besoin des pluies, de la première et de l'arrière-saison. S'il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'appât d'eau.
Ne
pense pas que l'eau vient des montagnes. Non, cela vient de la neige et la neige vient d'en haut. Ça signifie que dans la vie de l'Église, notre travail aujourd'hui, dans l'Église, nous avons besoin de la bénédiction d'en haut. Ne pense pas que nous fassions du travail uniquement. Nous travaillons simplement dans la maison de Dieu. J'ai dit au Seigneur ce matin, « Seigneur, si je n'ai pas de pluie, je n'ai pas d'eau. Comment pouvons-nous servir sans obtenir la pluie qui vient d'en haut, sans la bénédiction, que ce soit tôt ou tard. Nous sommes dépendants de lui, pas de ta capacité, pas de la connaissance de la Bible, pas de l'Internet, même pas de la Bible. Nous sommes dépendants d'en haut. Beaucoup lisent la Bible, mais sont aussi secs. N'avons-nous pas expérimenté cela, que notre réunion est si sèche? Nous avons besoin de pluie. La pluie vient d'en haut, elle est fraîche. La pluie fraîche. Nous pas, prenez pas l'eau dans le garage. Certainement, en cas d'urgence, s'il ne pleut pas pendant un certain temps, cela va être peut-être utile de prendre l'eau dans le garage. Mais dans la maison du Seigneur, nous n'avons pas besoin d'économiser l'eau. Tu dois boire. Cela va couler de notre sein de manière continuelle. L'eau de la vie, pour ceux qui croient. Est-ce que tu bois devient même une source d'eau de la vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle, n'est-ce pas ton expérience? Je n'aimerais pas juste de la pluie, j'aimerais que de l'eau coule. Seigneur, l'eau de la vie doit sortir. Nous avons besoin de la pluie qui vient d'en haut. La pluie, la source d'eau de la vie qui sort de nous. Seigneur, puisse affermir notre cœur, être patient pour affermir nos cœurs. Souvenez-vous de ce que Proverbe a dit. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si c'est bloqué, alors c'est égal si ton message est bon ou non, il n'y a rien qui va couler. Si la conduite d'eau est bloquée, même si la source est si riche, elle ne vient pas dans ta maison parce qu'il y a une conduite qui est bouchée. Veille sur ton cœur. Un cœur pur est important. J'espère. Toutes les conduites de notre cœur, notre volonté, si c'est bloqué, ou dans nos émotions, nous avons tout à coup de la colère contre les saints. Alors, je te dis que là, ça ne va pas couler. Comment est-ce que ça peut sortir dans la réunion si j'ai toujours quelque chose contre le frère? Ça va même grandir en moi. Est-ce que tu penses que l'eau va couler? Ou si mes pensées ne sont pas libres. Alors, je suis là, je pense à mon compte en banque ou à l'inflation. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Oh là là, tout est si cher. Maintenant, je ne peux plus rien acheter. Il n'y a plus rien dans le magasin. Tout est vide. Et tu es assis dans la réunion et tu penses à ces choses. Alors, il n'y a rien qui coule. Tout est bloqué.
Oh, le virus comme le Omicron.
Tu penses au virus, tu dis Omicron, tu dis pas Oh Seigneur Jésus, tu dis Omicron. Je pense pas à Omicron. Qu'est-ce que c'est qu'Omicron?
Oh, moron.
pas saisi le moron. Non, nous pensons au Seigneur, alléluia, parce que le Seigneur est si proche. Et toi, tu penses à Omicron? Non, le Seigneur est proche, ne le sais-tu pas? Si le Seigneur est si proche, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu aimerais tellement avoir en plus? Alors, tu dois travailler dans ton champ. Fidèlement. Amen. Seigneur Jésus. La venue du Seigneur est proche. Non, Jacques, tu te trompes. Après 2000 ans, est-ce que tu dis que c'est proche, tu dois te repentir, Jacques. Tu dois écrire, le Seigneur reviendra tôt ou tard. Il a même dit qu'il doit attendre encore longtemps jusqu'à ce qu'il vienne. Si ça, c'est ce qui est dans ton cœur, alors tu as un cœur méchant, comme le Seigneur l'a dit. Alors le Seigneur vient et là, nous avons un réel problème. Hébreu a dit encore un peu de temps. Même Paul a dit, le Seigneur vient bientôt, Maranatha. J'ai écrit sur ma porte, quelqu'un m'a fabriqué un morceau de bois, gravé sur le morceau de bois, Maranatha. Et chaque jour, je vois cette expression et je sais que le Seigneur est proche. Vous pouvez venir vérifier, c'est écrit sur ma porte, Maranatha. Le Seigneur est proche. Et j'aimerais vous dire maintenant, le Seigneur est proche, maintenant. C'est pourquoi ne murmurez pas les uns contre les autres, pas de murmure, frères et sœurs. Je n'aimerais pas murmurer, Seigneur. Je veux apprendre à utiliser ma langue, non pas pour murmurer, mais pour louer. J'aimerais lui remercier. J'aimerais lui rendre la gloire de ma bouche, qui est de manière continuelle une louange, comme Hébreux 13 le dit. Pas une louange vide, mais un bœuf doit sortir. Un agneau doit sortir de ma bouche. C'est une offrande. Une offrande doit sortir de ma bouche. Non pas des murmures et des plaintes, pas de critiques, pas de paroles méchantes. Mon Dieu, qu'est-ce qui est écrit dans nos cœurs? La bouche s'exprime de l'abondance du cœur. Tout ce qui sort de notre bouche montre ce qui est dans nos cœurs. Afin que vous ne soyez pas jugés, car voyez, le juge va venir, il nous donne encore du temps. Peut-être que vous vous dites, oh, il va nous donner du temps, il va nous laisser encore du temps. Non, il est devant la porte, est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu te rends compte de cela? Le Seigneur est proche et le juge est à la porte. Est-ce que c'est ce qui est sur ton cœur ou non? C'est sain si tu penses de cette manière. Et si tu penses, oh, j'ai du temps, le juge tarde à venir, alors ce n'est pas bon pour toi. Alors tu ne vas pas utiliser ce temps pour te préparer pour son retour, mais tu vas utiliser ce temps pour toi-même, pour faire ceci, pour faire cela. Pour encore te disputer avec tel et tel, parce que tu penses que tu as tellement de temps. Je ne crois pas que Jacques a eu ce comportement. En tout temps, il avait cette conscience que le juge se tient à la porte. Heureux ceux qui ont persévérer. Nous devons persévérer. Bien utiliser notre temps pour gagner le Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux. C'est pourquoi Pierre a dit qu'il a retardé encore ce temps, non pas parce qu'il aime rester dans le lieu céleste, il nous a oubliés. Il n'y a pas de problème, je suis avec les anges sont si obéissants, jour et nuit, et ça, et le lot, ça c'est merveilleux, le Seigneur nous a oubliés. Non. Le Seigneur a retardé sa venue parce qu'il aimerait que nous soyons prêts. Si demain le Seigneur apparaît, est-ce que tu es prêt? Qui est prêt? Le Seigneur est très miséricordieux. Il a beaucoup de pitié. C'est pour cette raison qu'il nous a donné une prolongation de quelques années. C'est pourquoi il y avait un avertissement encore à la fin. Cette petite... Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne soyons pas doubles. Soyez juste, plein d'amour. Dites la vérité à votre prochain. Quelqu'un ne veut pas accepter la parole du Seigneur, c'est leur responsabilité. Tu n'as pas besoin d'être fâché. Celui qui ne veut pas entendre la vérité, c'est sa responsabilité. S'il n'accepte pas la vérité, il ne te renie pas à toi, mais il renie Dieu. Ne sois pas si fier. C'est Dieu qui agit. Nous sommes ses esclaves. Si quelqu'un dit des mensonges à mon égard et dit que c'est de ma faute, pourquoi est-ce que je dois être fâché par rapport à ça? Il voulait avoir un roi comme toutes les nations. Il ne voulait pas, le peuple juif ne voulait pas que Dieu soit leur roi. Alors Samuel est venu vers Dieu et Dieu lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu es en colère? Ils ne t'ont pas rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et toi, tu es fâché? Ou peut-être que toi, tu voudrais être le roi? Ou est-ce que tu penses que tu es le représentant du roi et c'est pour cette raison que tu es fâché? Non. Pourquoi voulons-nous être en colère contre quelqu'un qui ne veut pas accepter la vérité? Nous parlons ce que le Seigneur nous donne. Et si personne, si quelqu'un ne le veut pas, c'est une affaire entre lui et le Seigneur. Moi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi Jacques dit une parole de sagesse. Notre colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Pourquoi es-tu fâché? Tu n'es pas le Seigneur, tu n'es pas le juge. C'est pourquoi nous apprenons que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Si tu juges, tu seras le premier à tomber sous le jugement. Le Seigneur va te dire, mais qui t'a instauré comme juge? Qui a fait de toi un juge? Le temps est passé. vous savez tout maintenant. Je n'ai pas besoin de parler au sujet du jugement, vous le savez, vous le lirez vous-même. Mais louez le Seigneur pour l'épître de Jacques, c'est si pratique.